Putain, qu'est-ce que c'est que cette connerie?
C'est le canu info. Ah,
bah, mais je sais pas.
Mais c'est celui du vendredi en plus.
Quelle heure?
À 19h. Attends que j'appelle ma grand-mère. Tu lui dis de mettre le 102.2. La plus rebelle des radios. La plus rebelle des radios. Waouh.
C'est gros, c'est bleu, ça fait pas de bruit, ça se cache derrière le cimetière la nuit. Ça te surveille, ça te suit, ça te guette. Même si tu portes une casquette, c'est derrière toi quand tu conduis. Ça veut des papiers, ton permis, ton vol, volet et ton fichier. C'est tout le temps vénère et c'est mal poli. Ça te saute à la gueule comme une grosse bête. Un monstre chelou avec sur la tête. Prends une machine dans une estafette. C'est quoi? C'est quoi?
C'est qu'un mille infos.
Canu 102.2. Canu info du vendredi.
Canu, donne-moi des infos.
C'est 102.2, la radio più ribelle.
Paniquez pas,
niquez tout.
Canu info du vendredi.
Bonsoir.
Si vous êtes sur Radio Canu, évidemment, et vous écoutez, et c'est l'heure du Canu info. Et il est exactement 19h03.
Et on va commencer ce soir avec pas mal de brèves locales. On va notamment vous parler du collectif Jamais sans toi qui occupe un gymnase municipal à Vaux-en-Velin. On va vous parler d'une trentaine de véhicules qui ont été incendiés à Firminy. Ensuite, on causera un petit peu d'un policier qui a été jugé à Lyon hier pour avoir frappé un homme gardé à vue.
Voilà, et ensuite on vous parlera d'un abbé intégriste qui passe en procès pour viol.
Et puis, ça nous permettra aussi de parler de la réouverture de la Plume Noire. C'est ce soir. D'ailleurs, ça commence à 19h30.
Voilà. Et ensuite, on vous parlera de notre grand pote Laurent Wauquiez, qui veut, qui veut généraliser la vidéosurveillance sur le réseau TER.
On passera ensuite à la rubrique nationale et on commencera par écouter un entretien avec un membre du mouvement des Free Party qui est poursuivi suite à une manifestation contre la loi travail pour avoir supposément bloqué les voies du tramway à Tours avec son camion.
Et voilà, et ensuite on vous parlera et vous saurez tout de ce qu'on appelle le système TESS qui est complètement déployé maintenant en France.
Et puis on passera à la rubrique internationale et on vous parlera de la détention offshore des requérants d'asile, une pratique australienne qui est en train de déteindre sur l'Europe.
Et ensuite on terminera par l'agenda.
Et c'est parti pour ce Canu Info.
Prenons une ville, Lyon. À Lyon, nous pensons que chacun est capable d'innover. Nous rassemblons les conditions nécessaires pour faire émerger les projets les plus...
avec la volonté la plus respectueuse et la plus responsable...
Allez-y, la précarité n'est pas minimale à Lyon.
Difficile.
Pour cela, nous récoltons les données du territoire, les organisons et les traitons...
On ne pense pas ici que cela fait plaisir à aucun des adjoints élus ici...
Et vous les bougez en bonne intelligence. Pouvoir inventer et construire la ville de demain est une chance. Construisons-la ensemble.
On ne vous laissera pas faire.
On ne vous laissera pas faire.
Monsieur le maire.
Monsieur le maire.
Monsieur le maire.
C'est nous les zadistes. En chantant résiste.
Et on résiste. Et ceux qui résistent sont notamment les membres du collectif Jamais sans toi. Hier soir, donc le jeudi 6 avril, le collectif Jamais sans toi de Grand Clément a décidé de mettre à l'abri les familles au gymnase Paul Roux de Vaux-en-Velin. Voici ce qu'ils ont écrit. Depuis le 10 mars, le collectif a effectué de nombreuses demandes et relances auprès des autorités compétentes. Ses membres ont appelé quotidiennement le 115 et puis ils ont aussi sollicité les élus de la mairie de Vaux-en-Velin, Madame Le Bonnec, la directrice du cabinet de la secrétaire d'État chargée de la politique de la ville, Monsieur Englebert, donc le préfet délégué à l'égalité des chances, et Monsieur Bidet, le directeur académique adjoint. Malgré ça, malgré toutes ces sollicitations, à l'école Grand Clément de Vaux-en-Velin, les enfants sont malheureusement toujours à la rue. Les demandes de Jamais sans toit sont pourtant très simples, puisque le collectif demande de faire respecter le droit à l'hébergement et le code de l'action sociale et des familles, ainsi que la Convention internationale des droits de l'enfant qui devrait leur assurer un logement. Des possibilités d'hébergement existent, puisque des logements municipaux sont actuellement inoccupés dans le quartier, à Vaux-en-Velin donc, et dans la commune. Sans réponse des autorités compétentes et après 3 semaines à se substituer aux organes gouvernementaux, le collectif Jamais sans toit de Grand Clément a décidé, lors d'un repas solidaire réunissant des personnes des écoles Gargarine, Villard, Langevin et Grand Clément, de mettre à l'abri les familles au gymnase Paul Roux de Vaux-en-Velin, et ce, depuis hier, le jeudi 6 avril à 21h. Le collectif indique que tant que des solutions ne seront pas trouvées, il continuera ses actions, et nous on peut ajouter qu'on continuera de les soutenir.
Voilà, et maintenant je vais vous parler des plages de Miribel, puisqu'il l'été arrive, donc tout le monde va vouloir se précipiter là-bas, mais au grand malheur, les tarifs de la plage de Miribel explosent. Donc en effet, grosse augmentation des tarifs, plus 27% pour les adultes, l'entrée atteint 7 euros. Depuis 2010, où elle coûtait 4 euros, l'augmentation atteint donc 75%. Elle s'explique en partie par la grosse baisse de la subvention du Grand Lyon. À la piscine, qui elle aussi coûte désormais 7 euros, ou au parc, les baignades estivales coûtent donc de plus en plus cher pour les familles qui ne peuvent pas partir en vacances.
Et voilà, à Lyon, la politique anti-pauvre continue. Et tout autre chose, dans la vallée de l'Ondaine, dans la nuit de mercredi à jeudi, 32 voitures ont été volontairement incendiées dans 3 communes voisines de la vallée de l'Ondaine, dans la Loire. Des actions qui sont bien préparées, d'après le maire de Firminy, qui évoque un lien possible avec le contexte des élections présidentielles. Entre 3h30 et 6h du matin, cette nuit, enfin la nuit dernière du coup, ce sont 12 véhicules qui ont brûlé à la Ricamerie, 10 au Chambon-Feugerolles et 10 à Firminy, sans raison apparente, écrit la presse. Dans le quartier traditionnellement calme des Vertes Collines, rue Paul-Éluard, 4 véhicules incendiés ont provoqué une propagation du feu au garage d'une maison avoisinante. Les flammes ont détruit la toiture du garage de la maison. Et donc selon Marc Petit, le maire de Firminy, ces saccades étaient, je cite, « très préparées, préméditées et bien organisées ». Et il avance une hypothèse en disant que la dernière fois que des véhicules ont brûlé rue Paul-Éluard, c'était à la veille des élections municipales en 2001, il pourrait s'agir d'une provocation en lien avec les élections présidentielles. Le maire de Firminy indique que des renforts sont déployés notamment dans sa commune pour les prochains jours. On doute que si ça énerve les gens, les présidentielles, ça change grand-chose.
Et maintenant, on va parler d'une personne de plus qui s'est suicidée en tôle. Donc, la famille d'un détenu, donc qui s'est suicidé mi-février 2017 à la Talaudière, donc dans la Loire, porte plainte contre la prison et les services pénitentiaires d'insertion et de probation. Il était incarcéré pour 3 mois. Un maton avait été alerté de sa dépression et il aurait répondu « Les gens comme toi, c'est du cinéma ». Donc l'homme de 34 ans, au final, s'est pendu avec le fil du frigo. Et au 1er février, il faut savoir qu'il y avait 343 personnes détenues dans cette maison d'arrêt pour seulement 275 places disponibles.
Et voilà, violence carcérale, mais aussi violence policière actuellement près d'ici. Canu Info.
Et dis pas de mal des cochons.
Mais ça pue un cochon.
Violence policière. Canu Info.
La police qui tue, la police assassine. Qu'elle soit de droite ou socialiste, la police qui tue.
Violence policière. Et donc, violence policière, un policier a été jugé à Lyon ce jeudi pour avoir frappé un homme gardé à vue. Le tribunal correctionnel jugeait hier un policier accusé de violence volontaire sur un homme placé en garde à vue le 3 février dernier à Rieux-la-Pape. Les images de vidéosurveillance révélées par France 3 Rhône-Alpes montrent une agression violente à l'encontre du détenu. Ce sont des images d'une rare violence. Le 3 février dernier, à 4h du matin, un homme est en garde à vue dans le commissariat de Rieux-la-Pape, donc pour des faits d'outrage et de rébellion. Énervé, il aurait provoqué le policier de garde. À 4h11 du matin, le policier dérape complètement. Il frappe le gardé à vue de violents coups de poing au visage. La victime, qui a reçu plusieurs points de suture, a porté l'affaire en justice. Lors du procès qui se déroulait ce jeudi 6 avril à Lyon, le policier reconnaît à la barre, je cite, « Je suis dépressif avec des sautes d'humeur ». Suivi en psychiatrie pour sa dépression, il avait été désarmé par mesure de précaution en mars 2016, avant de récupérer son arme quelques mois plus tard. Les images de vidéosurveillance du commissariat révèlent une agression violente dans la cellule du gardé à vue. Le policier n'a pu que reconnaître les faits à l'audience et le jugement a été remis en délibéré. On vous tiendra au courant. Il faut ajouter qu'il y a quand même un gros problème avec le traitement médiatique que fait France 3 Auvergne-Rhône-Alpes de cette agression policière. Alors comme le font souvent, en tout cas assez souvent ces derniers temps, les médias lyonnais, la chaîne de télé donne le nom du gardé à vue sur son site internet, garantissant ainsi à celui-ci que ses futurs prochains employeurs, ou en tout cas même ses proches, tomberont facilement sur ses sinistres affaires en tapant son nom dans un moteur de recherche. Le nom du flic, lui, n'est évidemment pas précisé. La vidéo de surveillance de la cellule que France 3 diffuse est du même acabit, puisque la chaîne a flouté le visage du policier, mais pas celui du gardé à vue. Une fois de plus, dans un cas de violence policière, et malgré le fait que cette fois-ci il y a eu un procès, ce sont encore les victimes qui morflent. On fait écoute tout de suite un petit morceau de musique.
Yo, some people got good friends and now I live my life right. Intense. On the edge, on the Y. I'm from the group where friction leads to fire. Stack your bricks, the time is take your pick. Do it, don't. The track, alchemist. Yo, my life is good. I got my peeps in the mix, so.
Words come to words, my peoples come first.
I got worldwide family all over the earth. And I worry about them all for whatever it's worth. From the birth to the host, through streets the guns burst. Words I disperse are here to free minds. Yeah. And if mine are needy, I need to feed mine.
When words come to words.
Set up shop and write a verse. Actually, what? That's best come to best. My lyrics take care of me, they therapy, get shit off my chest. Extra stress, 3-4 over the score. Different patterns of rhyming prepare me for war. So next time you see us, we'll be deadly on tour. When
words come to words, my peoples come first.
Word up, if worst comes to worst, I make whole crews disperse. You know it's family first. Gifted unlimited with dilated peoples. Babu, evidence, Irish science. And a shout out to my man Alchemist on the Trizap.
My peoples come first.
I'm a glutton for the truth, even though truth hurts. I've studied with my peoples on streets and in church. We make it hard when we go on first. Long road, honor of the samurai code. These California streets ain't paved with gold.
When words come to words, my peoples come first.
I got that back. At the end of the day, we could go our separate ways, but the song remains and won't change. Got my target locked in range. I might switch gears, but first I switch lanes. Without my people, I got nothing to gain. That's why.
Worst come to worst, my peoples come first.
Special victims unit, catalyst for movement, right. Create to devastate since 84, show improvement. Definitely dilated peoples comes first. Cross trainers ball, we raise the ball and we put it in your ear, no matter who you are.
Worst come to worst, my peoples come first. Worst come to worst, the worst.
Et l'abbé intégriste qui avait été caché par la fraternité Saint-Pédis dans un monastère du Beaujolais à Morgon sera jugé en mai pour viol et viol avec acte de barbarie. En 2010, la hiérarchie de ce directeur d'école l'avait mis à l'abri après avoir appris les sévices qu'il avait infligés à au moins 3 institutrices. La police était venue le chercher dans le monastère après que les victimes avaient porté plainte. La fraternité Saint-Pédis est une communauté intégriste proche des milieux d'extrême droite, fondée en 1970 par Mgr Marcel Lefebvre. Elle ne reconnaît pas le concile de Vatican II qui a, selon eux, rompu avec la tradition. Il faut noter qu'ils ont été réintégrés récemment dans l'église par le pape François. Donc mercredi, le collectif lyonnais We Report, donc c'est un collectif de jeunes journalistes, a sorti un article décrivant un autre lieu de mise à l'écart des prêtres de la fraternité accusés de sévices. Celui-ci est situé dans les Hautes-Alpes. Et que ce soit pour les groupes intégristes comme la Fraternité Saint-Pédis ou dans des congrégations religieuses aux idées moins radicales, le déplacement des prêtres accusés de viol ou de pédophilie d'une ville à une autre ou d'un pays à un autre est un principe institutionnalisé au sein de l'Église. Comme vous pouvez notamment le voir dans un récent reportage diffusé sur France 2 qui est assez intéressant à ce sujet. Donc rappelons que la Fraternité Saint-Pédis convoite les églises Saint-Bernard et Bon Pasteur qui sont toutes les deux situées dans les pentes de la Croix-Rousse, l'une rue du Bon Pasteur et l'autre au niveau de la place Colbert. Rappelons aussi que c'est suite à une manifestation organisée, notamment par la Fraternité Saint-Pédis, pour réclamer l'église Saint-Bernard, située au-dessus de la place Colbert, que des militants d'extrême droite s'en étaient pris au local la plus noire et à ses occupants. Alors ça nous permet de passer une meilleure nouvelle, puisque à propos de la plus noire et de ses vitres qui avaient été brisées, et ben la réouverture c'est ce soir. Comme vous vous en souvenez sans doute, donc la librairie La Plume Noire avait été la cible d'une attaque par un groupe d'une vingtaine de fascistes le 19 novembre 2016. Les dégâts matériels assez importants et le délai très long avec l'assurance pour commencer les travaux et rendre le local accessible et confortable pour des activités n'a malheureusement pas permis à l'équipe qui anime le lieu d'organiser énormément d'événements depuis. Les cours de langue en solidarité avec les migrants ont bien eu lieu, ainsi que les permanences de la librairie, mais il était compliqué de faire plus. Mais bonne nouvelle ce soir, les travaux sont enfin terminés. Et dans un communiqué récent, La Plume Noire précise même que le local est devenu plus accueillant que par le passé. Donc finalement, nos amis fascistes, des fois, permettent d'accoucher de bonnes choses. C'est pas vraiment ce qu'on pense, en fait. Pour fêter cette réouverture, une soirée est organisée ce soir. La soirée, elle commence à 19h30, donc c'est exactement dans 13 minutes. Et il y a un concert qui est lui organisé à partir de 20h30 avec le trio Les Féminés. Le concert, comme toutes les activités organisées à La Plume Noire, est à prix libre. Donc le concert, c'est ce soir. C'est juste à côté de la place Colbert à La Plume Noire.
Qu'est-ce qui rapporte plus de points au Scrabble qu'à la région?
Vauquier.
L'Assistana est aujourd'hui un des vrais concerts de la société française. La Cistana est aujourd'hui un des vrais concerts de la société française.
Merci beaucoup Laurent Wauquiez de nous avoir rejoint, mais évidemment tout de suite. Comment vous vous sentez ce soir?
Je pense qu'on a une région qui est extraordinaire. Elle a un potentiel fabuleux. Je pense qu'on a du potentiel, on a de l'énergie, on a des ressources. Ce que je veux, c'est que notre région soit la première région de France. C'est que ce soit un modèle de ce qu'on peut réussir en France et que tout simplement chez nous, oui, je l'assume, on puisse se dire, voilà le modèle d'une France qui a retrouvé ses repères.
À la ferme.
La ferme?
Quelle ferme?
À la ferme ta gueule, toi, du con, espèce de crétin. Qu'est-ce que tu veux, nous prendre la tête, là, pauvre con?
Et Laurent Wauquiez fait encore des siennes. Cette fois, c'était alors qu'il était dans un TER en direction de Rive-de-Gier avec des journalistes que le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a rappelé ses objectifs en matière de sécurité sur le réseau TER. Il a annoncé la création d'un plan bouclier, notez le nom, c'est très sympathique, qui prévoit quand même près de 100 millions d'euros d'investissement. On rappelle que cette même personne, Laurent Wauquiez, coupe les subventions des associations à tout va. Au programme, une généralisation de la vidéosurveillance dans tous les trains régionaux. Fin 2016, 70% des rames en étaient déjà équipées, c'est-à-dire que ça se pose assez bien en Rhône-Alpes, mais il n'y en avait aucune en Auvergne, ce qui est quand même un petit peu dommage pour qu'ils ne profitent pas de ces avancées technologiques. Ce développement du système de caméras devrait s'accompagner de l'arrivée d'un nouveau matériel doté, il paraît, d'un logiciel intelligent. Alors l'objectif affiché pour l'instant de ce logiciel intelligent, c'est de repérer les incidents sur le réseau et c'est aussi de repérer les suspects. Donc on ne sait pas tellement ce que ça veut dire logiciel intelligent, mais on se doute que ça peut puer un petit peu la reconnaissance visuelle portée des casquettes. Attaché, très attaché même à la vidéosurveillance, Laurent Wauquiez a également rappelé son souhait de l'étendre dans et autour des gares de la région. Et puis alors la question qui se pose, c'est quelle structure pour gérer cet afflux d'images? Qui est-ce qui va pouvoir regarder toutes ces vidéos absolument passionnantes de vous en train de prendre le train ou en train de l'attendre? Eh bien, il va créer un nouveau centre de supervision régionale qui devra lui seul avoisiner les 70 millions d'euros. Une structure qui, note-t-il fièrement, est unique en France en dehors de la région parisienne. Voilà, une grande fierté pour la région Rhône-Alpes-Auvergne et surtout 170 millions d'euros pour sécuriser, ou plutôt pour surveiller encore plus tous nos faits et gestes. Laurent Wauquiez et son progressisme sont toujours présents.
Canu. Info.
Gendarmerie nationale! Arrêtez un peu les conneries là, non?
Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature? Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, Dolores.
D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État?
J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle.
Info nationale.
Décidément, les temps comme les œufs sont durs. Et la bêtise n'a pas de limite.
Et Et pour commencer les informations nationales, on part à Tours, donc dans la région centre à l'ouest de la France, où un procès va avoir lieu le 27 avril suite à une manifestation contre la loi travail en mai de l'année dernière. Le conducteur d'un poids lourd qui servait à diffuser du son et des prises de parole est ainsi accusé d'avoir bloqué le trafic du tramway de la ville. Et c'est l'équipe de Polymix et la voix off qui a réalisé cette interview pour le Canu Info. Donc un gros merci à JBD, à André et à Daniel pour l'interview, la prise de son et le montage. Et puis merci aussi à Muriel pour l'idée de cette belle interview. On écoute ça tout de suite.
Mamat, bonjour.
Bonjour.
Comment tu te présentes?
Mamat, un mec en camion qui fait partie du mouvement des Free Parties, qui s'implique dans les mouvements sociaux.
Tu as mentionné le mouvement des Free Parties, c'est quoi?
Alors les Free Parties, c'est un mouvement d'événements libres et autogérés où on pratique la culture de la musique techno, répandue à travers le monde entier, et qui défend des zones autogérées, d'expression libre et de gratuité. Et du coup, les États nous répriment fortement, se servent de tout, n'importe quel prétexte pour nous mettre en procès. Tout le temps, des procès, on a tout le temps, quoi.
Comment tu vis à l'année? T'as un chez-toi fixe?
Non, je suis en camion justement, à travers justement toute la France et puis les pays limitrophes à la France. Et en fonction des événements et des petits boulots qu'on trouve à droite à gauche. Donc du coup, je travaille essentiellement en restauration et dans l'agriculture. Et puis on fait des événements un peu partout, que ce soit vers Paris ou dans le sud de la France ou ici. On organise des free parties un peu partout.
Pourquoi est-ce qu'on se rencontre aujourd'hui voilà, à cette table de café? On va parler de quoi?
Parce que justement, je passe en procès le 27 avril pour avoir soi-disant bloqué les voies du tramway de la ville de Tours pendant les manifs syndicales. Celle du 17 mai contre la loi travail, donc une manif déclarée en préfecture par FO justement. Et à la fin de la manif, avec les différents camions syndicaux, on a décidé de faire des prises de parole, de mettre un peu de musique et compagnie. Et l'État a décidé de me poursuivre pour avoir bloqué les voies du tramway pendant 3 heures. Enfin, c'est ce qu'ils disent du moins.
Ce 17 mai, donc, tu étais là-bas en tant que toi-même conducteur de ton véhicule, ou est-ce que tu étais sous l'égide, si j'ose dire, de Sud Solidaire ou de Sud Étudiant?
Alors nous, on avait été voir les étudiants début mai pour leur proposer un camion avec Nsono, mon collectif et moi-même. Donc en leur disant qu'on leur prêtait du matériel. Mon collectif s'appelle Résistance Centre, c'est un collectif de son système justement. Et on leur avait dit que suite à ce qu'ils avaient eu une grenade dans les pattes des encerclements suite à un rassemblement à Gangorès. Et du coup nous on se bat contre la répression de toute forme et contre les violences policières, surtout dans notre milieu qui sont, où c'est très fréquent. Et du coup on avait dit bah nous on va soutenir la jeunesse et on va leur filer un coup de main et donc du coup on va leur mettre à disposition un camion et une sono. C'est comme ça qu'on est rentré dans le mouvement. On n'est pas à Sud, on n'appartient pas à Sud, on est autonome et autogéré. Par contre on est capable de travailler avec les différentes organisations syndicales et politiques.
Je connais pas bien le milieu justement des free parties et tout ça, mais j'aurais eu tendance à penser que c'était plutôt un milieu, disons, hédoniste. Voilà, on danse, on fait du bruit, on s'en fout un peu de ce qu'il y a autour de nous. Et en l'occurrence, c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on peut être tougher et concerné socialement et politiquement.
Mais une bonne partie des toughers sont entre guillemets conscientisés, même si j'aime pas ce mot-là, dans le sens où on essaye de créer des espaces autogérés. Alors on n'a pas le même mode d'action que les anarchistes ou les autonomes, les black blocs, compagnie. On n'a pas la même façon d'être en manif, on n'a pas la même façon de se réunir ou de créer des événements et de gérer avec l'État, avec les médias, avec tout ça. Mais oui, on a une implication dans la société, dans le sens où on défend l'accès à la culture libre, le droit à la fête, le droit au rassemblement, sans avoir besoin de faire de déclarations préalables. On veut récupérer l'espace public parce que maintenant tout attroupement est interdit. On veut également arrêter la commercialisation de l'art, de tout ce qui se passe sur cette planète où tout doit être vendu, marchandisé et mettre un prix dessus. On est contre le fait qu'il puisse y avoir des frontières et que notre mouvement justement n'a pas de frontières et qu'on peut être n'importe où. Par exemple, il y a quelques années, on était un Technival au Maroc, on a fait des Technivals un peu partout en Europe. Par exemple, le 17 mars, on a organisé une manif. On avait 7 villes en France qui étaient dans la rue. On avait des manifs à Montréal, à Dresde, à Berlin, à Ouarzazate. Donc du coup notre mouvement est vraiment internationaliste, quoi.
Je reprends cette manif du 17 mai hein, contre ce qu'on a appelé la loi El Khomri. Oui. Concrètement, il y a plusieurs camions d'organisations syndicales. Ton camion avec d'autres participe à ce truc-là?
Tout à fait, on était en tête de manif. On avait mis à disposition des étudiants et des lycéens un camion avec de la sono, des platines et un micro pour qu'ils puissent dire leur message aussi, et puis pour pas avoir été récupérés par aucun mouvement syndical et que ce soit la jeunesse qui soit en tête. Et du coup, c'est quelque chose d'assez festif, assez joyeux. Un cortège de tête plutôt sympa, quoi, par rapport aux autres villes de France où on avait réussi à faire un truc assez coloré, on va dire.
Et ce 17 mai, donc, cette prise de parole avec ce bivouac de camions, ça a lieu où précisément à Tours?
Sur la place Anatole France, donc à la fin de la manif, en roi dispersion. Et du coup, on occupait les abords de la place. Donc certains étaient sur les trottoirs, moi j'étais sur la route parce que j'avais mis un poids lourd, donc on pouvait pas monter sur les trottoirs. Et on s'était répartis sur toute la place, aux quatre angles de la place. Et donc du coup, tout le monde balançait ses messages, ses discours et sa musique.
André?
C'était après la dispersion, les autres étaient partis, les autres camions?
On a commencé ensemble, on est partis les derniers certes, mais on avait commencé ensemble. Et puis au bout d'un moment, les différents camions sont partis, nous on est restés, la police nous a demandé de partir, on est partis. Donc ça a duré après 3 heures, entre 14h et 17h.
Donc c'était pas improvisé une free party ou une rêve party aux abords du pont de Pierre. C'était pour permettre une prise de parole, parce que ça se fait à la fin des manifestations. Voilà, on fait une conclusion, un bilan, on se donne des mots d'ordre, on se donne des rendez-vous pour de futurs AG, puis on s'exprime. Et c'était à ça que servait ton matériel, ton camion et la sono.
Bah tout à fait, si on avait fait une free party, on l'aurait pas fait comme ça, on aurait vraiment ramené beaucoup d'enceintes et on serait pas laissé virer. Là on a été en mode gentil, on a permis aux étudiants et à tous ceux qui veulent parler de pouvoir parler. Et de pouvoir dire librement ce qu'ils ont envie de dire par rapport à leur travail, par rapport à leurs expériences et par rapport à leur volonté sur le mouvement.
Et donc vous étiez couvert par l'autorisation qui avait été donnée à la manifestation.
D'après la police, en tout cas, la dispersion était faite pour 14h. Donc c'est ça qu'ils nous reprochent. Après, ce qu'ils nous reprochent, c'est d'avoir bloqué des voies du tramway. Parce qu'on soit sur la voie publique, je veux bien. On a payé une amende de 135€ d'amende pour stationnement gênant. On l'a payé, on assume, pas de problème. C'est le début de la répression, mais bon, soit. Par contre, ce qu'ils nous reprochent, c'est d'être sur les voies du tramway. Or, on n'y était pas.
Est-ce que c'est la société de tramway qui vous fait le procès?
Bah complètement, c'est Fil Bleu, oui. Mais du coup, on peut se demander la question, qui c'est qui a impulsé ce procès? Parce que peut-être, certes, c'est Fil Bleu qui porte plainte, mais qui c'est qui lui a demandé? Parce que si on n'est pas sur les voies du tramway, ça pose souci quand même.
Il y a des photos ou des vidéos qui attestent que le camion n'était pas sur les voies du tramway?
Alors nous, on a des photos pour montrer qu'on n'était pas sur les voies du tramway. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que le tramway, ça a amené plein de caméras vidéosurveillance qui surveillent tout le parcours. S'ils avaient vraiment envie de vouloir savoir si on était dessus, il suffisait qu'ils regardent la vidéosurveillance. Et alors, ils l'ont pas fait, apparemment. Ce que je sais, c'est que nous, on a des photos pour prouver qu'on n'était pas dessus.
Je reviens sur l'organisation de la manifestation du 17 mai 2016. Donc les autres camions, vous êtes les derniers finalement à partir. Voilà, la police au bout d'un moment vous demande de partir. Ce que vous faites, vers quelle heure?
17h06, ils ont noté sur le PV. Le commandant est venu nous voir, il nous a fait « Vous partez, on saisit le camion ». On a fait « Bah non, on veut pas d'affrontement, on veut pas tout ça, donc on part ». Et voilà.
Et après le 17 mai, comment est-ce que tu apprends qu'il y a une suite?
Par la Nouvelle République, le journal local.
Génial.
C'est même pas la police qui m'informe, c'est la Nouvelle République qui était au courant avant même la police, d'après la police elle-même.
Quel jour tu apprends qu'il va y avoir une suite à cette histoire dans la Nouvelle République?
Oh bah, je crois que c'était 2-3 jours après, je crois, hein, je suis plus sûr. Mais du coup, on apprend qu'on va passer en procès pour avoir dégradé les voies du tram. Ce qui est un peu surprenant, parce que moi, bon, certes, j'ai un poids lourd, mais des poids lourds qui passent sur les voies du tramway pour faire des livraisons dans le tour, il y en a tout le temps. Pas possible.
Votre camion, il faisait quel poids pour dégrader à ce point-là les voies du tramway?
Je peux monter jusqu'à 12 tonnes, je ne suis pas, hein, il doit être à 10 tonnes ou 11 tonnes, mais il fait 12 tonnes, ouais. Mais bon, il y a des 44 tonnes qui passent tous les jours dessus. Au commissariat pour l'audition, j'apprends que c'est pour avoir bloqué les voies du tramway, ce qui n'est plus la même chose. Puis le CPE, ils ont renforcé les lois et le durcissement des peines pour tous ceux qui bloquent les voies de chemin de fer et les voies de transport terrestre.
Donc tu apprends par le journal, 3 jours après environ, que quoi?
Qu'on va être convoqué par la police, qu'il y a des suites et qu'on va passer en procès pour avoir dégradé les voies du tramway.
Il faut lire le journal plus souvent en fait, hein. Il y a des choses qui nous concernent dedans.
Ah bah, on apprend tout là-dedans. La Nouvelle République, c'est pratique, hein. Malgré que c'est la voie de l'État.
Donc c'était pas une information erronée, finalement ce que t'as découvert dans le journal, c'est avéré?
Bah oui et non, oui, j'ai bien été convoqué, mais après pas pour les mêmes motifs. J'ai pas dégradé du coup, je suis pas condamné pour dégradation. Enfin, je suis mis en examen pour blocage et tout.
C'était blocage plutôt que dégradation.
Pour les dégradations, ça paraissait un peu dur de pouvoir les légitimer s'il y en a pas, quoi. Je pense que je passe moins lourd qu'un tramway et qu'un tramway il dégrade pas quand il passe.
Tu dois passer en jugement.
Le 27 avril, ouais.
Vous êtes les seuls à être inquiétés. Donc si j'ai bien compris, les autres ont bloqué le tram.
Personne n'a bloqué les voies du tramway, parce qu'on était vraiment répartis sur les abords de la place et du coup, on n'a pas bloqué les voies du tramway. Ça c'est un mensonge de l'État encore une fois. Mais oui, je suis le seul à être poursuivi, en effet. Mais pour bloquer, il faut être sur les voies. Hein.
La seule personne.
Je suis la seule personne.
Au titre que tu es responsable de ton mouvement ou...
Propriétaire du camion.
Propriétaire du camion, oui. Après, je sais qu'ils m'aiment beaucoup, la police, et, par rapport au mouvement des free parties, justement. On venait de participer à un technival illégal contre la répression, qui cherchait des responsables et à les incriminer. Ils n'ont pas réussi avec ce technival-là, donc ils nous ont trouvé tous les prétextes possibles et inimaginables. Et l'intégralité des personnes qui ont impulsé ce technival ont eu des emmerdes par derrière, qui n'ont rien à voir avec le technival en lui-même.
Est-ce que ce qui te rend pas plus vulnérable, justement, c'est que... Parce que André parlait de votre mouvement, etc. Mais en fait, il n'y a pas de bannière, il n'y a pas de carte d'adhérent au mouvement des free parties. C'est-à-dire que toi, t'es ni Sud, ni la CGT, ni tout ça. T'es toi-même, en fait.
Alors, depuis cette année, parce que j'ai repris les études cette année, même si j'ai pas trop le temps d'y aller, faut dire la vérité. Mais j'ai repris les études cette année, et du coup, je me suis syndiqué à Sud étudiant. L'année dernière, oui, j'avais aucune banderole syndicale, qu'elle n'appartient à aucun parti politique. Dans le sens où, je considère que la politique qui prône, elle me convient pas actuellement. Et que les gens comme nous, donc qui vont en camion, qui vivent en marge, que ce soit tous les partis politiques, sont toujours contre nous et font toujours des lois contre nous. Que ce soit le PS, l'UMP, le FN ou l'extrême gauche. Et qu'à chaque fois, c'est nous qui trinquons.
Revenons-en à ce passage au tribunal qui t'attend donc le 27 avril au tribunal de Tours. T'as un avocat?
Alors j'ai un avocat, oui. Après, j'y vais avec tout l'appui de mon collectif.
L'avocat, tu l'as trouvé comment?
Bah, c'est quelqu'un, un avocat qu'on connaît depuis longtemps, qui on a déjà eu l'habitude de travailler, qu'on continuera à travailler avec. Parce que, comme je disais, justement, on est durement réprimé, donc on est obligé d'être soutenu.
C'est un avocat qui aime bien les toughers et les free parties.
Exactement. Il y en a plusieurs en France qui nous soutiennent. Ils ont du boulot avec nous. Et du coup, procès, on appelle à une manifestation le 27 avril devant le palais de justice à Tours à 8h30, parce que je passe en procès à 9h. Chacun est libre de venir comme il veut et de faire ce qui lui semble bon d'être fait.
En envisageant la pire des hypothèses, qu'est-ce que tu risques ?
Alors, la peine maximale, c'est 6 500 € d'amende, 6 mois de prison, 6 mois de retrait de permis et un dommage à intérêt de 1 650 € pour Fil Bleu, pour le fait qu'ils n'avaient pas pu faire rouler le tramway. Bon, ils n'iront pas jusqu'à là, hein. Je veux dire, c'est le maximum, ils le font jamais, mais on verra bien. Hein. De toute façon, ce ne sera pas à faire, quoi qu'il se passe, on fera appel, parce qu'on refuse d'accepter la répression, quelle qu'elle soit, et dans tous les cas, on fera appel.
Et il fera appel et nous on va continuer de le soutenir, on va récupérer des infos. En tout cas, c'était super intéressant d'avoir à la fois des news sur la répression des luttes sociales et en même temps un focus sur ce qui se passe en Free Party et comment ce mouvement s'organise. On n'en parle pas beaucoup, mais ça fait super plaisir. Donc merci encore à Mamat et merci aux copains de Polymix pour ce super interview.
Et maintenant, toujours dans la rubrique nationale, on va vous parler d'une autre super rubrique, sous-rubrique qui s'appelle la surveillance électronique.
C'est une brillante idée du docteur Cocteau. Greffer sous la peau une micropuce bio-organique. Dans toute la ville, des détecteurs localisent n'importe qui à tout instant.
Ce truc fasciste me donne envie de vomir.
Donc voilà. Et donc là, on n'en est pas à des puces sous la peau tout de suite, mais bientôt. Et on va vous parler de la mise en place du système TES. Donc le système TES donc, a été mis en place très récemment sur la totalité du territoire français et puis aussi d'outre-mer.
Donc, le système TES, on parle de quoi là ?
Alors oui, c'est un truc un peu obscur. Alors TES, ça veut dire déjà titre électronique sécurisé. Donc en gros, c'est un fichier. Enfin, il faut voir ça comme un fichier qui va rassembler dans une même base de données les données personnelles et biométriques, donc pour la gestion, là plus précisément, des cartes nationales d'identité et des passeports. Donc, ça remplace deux fichiers déjà existants qui sont du coup le passeport et la carte nationale d'identité.
Enfin, concrètement, ça change quoi ? On est quand même déjà un peu tous fichés, non ?
Donc voilà, effectivement, les données existent déjà dans les deux fichiers. Et donc en fait, c'est juste un prolongement d'une mise en place en fait qu'ils ont envie de faire, parce que actuellement, toute personne qui possède une pièce d'identité ou donc à savoir la carte nationale ou le passeport, a de toute façon déjà, enfin ce qu'on peut appeler est déjà fiché. Donc c'est plutôt rare de pas l'être. Et là on cite que deux titres, mais en fait il y a plein d'autres fichiers qui existent. Donc je pense qu'il y a des données, qui existent. Je pense que ça va être extrêmement rare une personne qui a absolument aucune donnée administrative ou etc. qui existe sur lui, quoi.
Bah, a priori, c'est pas tout à fait vrai. Il y a des gens qui sont morts il y a un millénaire et on n'a pas de données sur eux. Mais ouais. Effectivement, toute personne vivant actuellement, c'est compliqué d'avoir aucune donnée sur toi.
Très
Alors
dur.
Pourquoi est-ce que c'est plus dangereux TES de ce qui existe actuellement ?
Ouais, parce que effectivement, là, TES, on parle pas. En fait, la dangerosité, elle est pas tant sur les données qu'on va récolter. Parce qu'effectivement, il existe énormément de systèmes qui permettent de récolter des données sur de plein de manières différentes. Donc ça peut être via Pôle emploi, ça peut être via des démarches administratives pour avoir des papiers, ça peut être tout ça. Donc c'est la récolte de données ayant lien avec notre vie privée, c'est une autre question. Là en fait la dangerosité, c'est plutôt la relation la volonté de mettre clairement en relation des bases de données qui sont à la base différenciées. Donc ça, c'est quelque chose que l'État rêve de faire, fusionner tous les systèmes de toutes les bases de données qu'ils ont pour pouvoir accéder facilement à n'importe quoi. Et en fait, le risque, c'est que c'est qui l'utilise et à quelle fin, parce que Ce fichier, du coup, les questions qui se posent, c'est les accès à ce fichier-là, de quelle manière les informations sont verrouillées dans un sens ou dans un autre, c'est-à-dire si je tape le nom de quelqu'un, est-ce que j'ai toute sa vie qui s'affiche sur moi, etc. Et ça, c'est un gros flou sur l'utilisation même de ce fichier, qui l'utilise et pourquoi. Et c'est vrai, là, on en parlait tout à l'heure, tu vois, par rapport à la vidéosurveillance dans les TER, on peut imaginer du coup qu'après quelqu'un qui se fait qui est reconnu dans une gare, après on a toute sa vie étalée, parce qu'on recoupe tous les fichiers, on sait qu'il est qui fait ci, qui fait ça, tchac. Et donc voilà. Et déjà, pour la petite anecdote, peut-être vous avez déjà remarqué, mais quand vous roulez sur l'autoroute et que vous allez un peu trop vite, et il y a un message qui s'affiche sur les trucs informatifs, genre ne dormez pas au volant.
Mais ça, c'est pas un message, c'est un message personnalisé, ça ?
C'est un message personnalisé à destination du véhicule qui va trop vite. Et c'est marqué, on n'en est pas à mettre le nom, mais c'est marqué le numéro de la plaque. C'est marqué. Le TZ99 machin, je sais pas quoi, va trop vite, etc. Et du coup, après, avec un truc comme ça, si on peut recouper toutes les données, on peut dire, monsieur Bidule ou madame machin, va trop vite, et voilà. Enfin bref, c'est pour dire que y a plein de systèmes de fichage. Et que là, en l'occurrence, ce qui est pointé du doigt, c'est la réunification de ces bases de données-là. Et donc voilà. Et sachant qu'en fait, il y a quand même eu, sur cette histoire, des points de sécurité qui ont été soulevés en disant qu'en fait le système d'accès aux fichiers n'était pas sécurisé, etc. Donc là, a priori, ils sont en train de se pencher dessus, évidemment, mais ce qui est questionné, c'est plutôt ça, quoi, plus que la récolte des données qui est déjà fortement présente.
Ouais, l'usage et la sécurité des données, pour résumer, quoi.
Voilà, ouais.
Et alors, ce système TES, on n'a pas beaucoup entendu parler, mais du coup, ça a été déployé comment ?
Alors, c'est sorti, alors ça date de 2016, d'octobre 2016, où en fait, le gouvernement a un peu lancé cette procédure-là en publiant un décret. Après, il faut savoir que ce système-là existe déjà pour le passeport, donc ça, de toute façon, pour le passeport, il n'y aura pas de... toutes les données alimentent ce système-là, déjà. Et donc voilà, et c'était en fait l'enjeu, c'était plutôt de le transposer et d'intégrer en fait la carte d'identité dans ce truc-là. Donc ça a été mis progressivement en vigueur. Et donc le 17 février, donc dans le journal officiel, il y a un arrêté du 9 février donc, qui a été publié et qui donnait un peu la date de mise en application du fichier TES, donc département par département. Et en fait, on apprenait que la France métropolitaine, ça allait s'étaler entre le 23 février, le 21 février et le 28 mars 2017. Donc la fin du déploiement est toute récente. Et puis pour les collectivités d'outre-mer, Nouvelle-Calédonie et pour les demandes de cartes de nationalité qui sont aussi faites depuis l'étranger, le déploiement s'est effectué, a pris fin le 30 mars. Donc c'est déjà complètement, mis en place, quoi.
Ouais, c'est plié, il n'y a pas de négociation possible.
Ça dépend, parce qu'effectivement c'est plié, mais a priori, parce que le truc c'est que c'est passé par décret, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de débat parlementaire, etc., comme si ça avait été présenté comme un projet de loi, il n'y a pas eu pu avoir de discussion vraiment et de débat. Et donc... en fait, il y a le commissaire de la CNIL qui dit...
La CNIL, c'est...
La CNIL,
la
c'est...
La Commission nationale d'informatique et liberté, je crois.
Ouais, c'est ça, ouais, je ne me souviens plus exactement de la définition de l'acronyme. Qui dit qu'en fait, c'est possible quand même d'attaquer le décret par un recours devant le Conseil d'État. Donc ça, c'est... C'est justement ce qui est en train de se passer, parce que on en avait parlé dans un Canu Info ben, du coup l'année dernière. Donc le 8 novembre, il y a un collectif qui s'appelle les exégètes amateurs, donc qui regroupe des juristes et des membres de la Quadrature du Net. Donc en fait, c'est des personnes qui examinent assez attentivement les textes de loi. Et donc qui a fait connaître son intention d'attaquer le Conseil d'État sur ce fameux décret. Et donc eux, bon, ils ont assez l'habitude de ce genre de procédure, parce qu'ils ne sont pas à leur première. Et donc là, au début de l'année 2017, le collectif a dévoilé sa stratégie juridique donc contre ce fichier et a lancé dans la foulée un appel aux contributions extérieures pour consolider son action. Donc une première requête introductive d'instance sommaire a été transmise au Conseil d'État, ce qui permet en fait de déclencher, donc selon le code de justice, blablabla, un délai de 3 mois pour compléter cette requête. Voilà, donc ils vont faire un mémoire additionnel, et là il vient d'être transmis assez récemment. Mais alors, après, on peut se dire, bon voilà, le décret est passé, blablabla, et du coup ben là le système est déjà en place en fait. Ouais, donc on sait pas trop, j'ai l'impression que c'est quand même, peut-être je me gourre, mais c'est que ça me paraît hyper symbolique. Et là, je vois pas comment ils vont revenir en arrière là-dessus, ou peut-être ça va peut-être retarder un peu, mais le truc existe déjà en vrai. Donc voilà. Donc je sais pas si c'est un vrai recours ou pas, ou s'il fallait pas le faire plus tôt avant. Voilà. C'était bon. Mais c'est vrai que c'est vraiment passé en loose day. Personne n'est au courant. On sait pas ce que c'est. Et du coup, pour les papiers, ça change quasiment rien dans les procédures, mais par contre, tout est recoupé derrière, donc voilà quoi. Donc voilà, c'était pour faire un petit point là-dessus, parce que maintenant, sachez-le, vous êtes toutes vos données sont de plus en plus recoupées.
Et d'ailleurs, Canu a aussi ces infos, on informe le conducteur de la voiture immatriculée 9792TX69 que la police sait qu'elle écoute Radio Canu, et nous aussi on l'embrasse. On passe aux informations internationales, et plus particulièrement, on va parler de migration.
Sans papier.
Migration.
Frontières.
Expulsion.
Centre de rétention.
Frontex.
Asile.
Réfugiés.
Racisme.
Clandestins.
Europe forteresse.
Répression.
Calais.
OQTF.
No border.
Donc voilà, on va vous parler de ce qu'on appelle la détention offshore. Donc en gros, comprenez au large. Et ça veut dire beaucoup de choses. Et donc ça, c'est une pratique que l'Australie, dont l'Australie s'est fait maître. Et voilà. Et en fait, il y a des. Enfin, c'est pas récent hein, non plus là, ce que je vais dire, mais. L'Europe est en train de prendre le pas sur cette politique australienne de gestion de l'immigration de plus en plus fortement. Donc il y a un article récent du Daily Telegraph où une journaliste y expliquait qu'au moins 6 pays européens auraient récemment demandé conseil à l'Australie pour stopper les traversées en Méditerranée. Donc les discussions privées ont eu lieu malgré les dénonciations répétées de l'Union européenne contre les refoulements systématiques des requérants d'asile arrivant par bateau en Australie et contre leur détention offshore sur l'île de la République indépendante de Nauru et celle de Manu en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc ça, c'est la technique australienne, c'est-à-dire on refourgue on stocke en fait, c'est ça, c'est du stockage de des personnes qui veulent venir en Australie dans des états tiers autour. Donc en novembre 2016, l'Australie avait même envoyé des membres haut placés de la force frontalière, donc Border Force, j'aime bien les titres comme ça, à Varsovie en Pologne, afin de discuter avec des agences européennes de protection des frontières et trouver des solutions pour bloquer les arrivées de bateaux donc en Italie et en Grèce. Donc le fameux Peter Dutton, donc le ministre australien de l'immigration, et des protections, parce qu'ils appellent ça comme ça, des protections des frontières, a confirmé des contacts sur ce sujet avec le Royaume-Uni, l'Autriche et d'autres gouvernements qui voient dans la méthode australienne la meilleure solution pour arrêter les arrivées des personnes migrantes en Europe.
Encore des progressistes.
Tout à fait. Donc là, sachant qu'on parle quand même donc, de l'Australie, donc l'Australie qui ignore depuis longtemps les condamnations des différentes instances de l'ONU. Donc il faut savoir que l'Australie bafoue un nombre assez important de traités internationaux qui protègent les droits humains, donc notamment la Convention des réfugiés, la Convention contre la torture, la Convention internationale sur les droits civils et politiques, la Convention sur les droits de l'enfant, etc. etc. Donc plusieurs instances de l'ONU ont condamné ces refoulements systématiques et de détention, donc ce qu'on appelle offshore. Donc le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme, le Comité des Nations Unies contre la torture, le rapporteur social des Nations Unies pour les droits humains des migrants et le HCR. Voilà. Enfin bref, c'est pour dire qu'en fait l'Australie est déjà fortement dénoncée
c'est par un leader dans le côté
maritime. C'est un leader, voilà. Et ce qui est inquiétant, c'est que des pays européens veulent un peu, enfin trouvent dans ce modèle-là un truc. Absolument génialissime. Et faut savoir aussi que l'Australie fait maintenant l'objet d'une plainte à la Cour pénale internationale, donc on appelle le CPI, pour crime contre l'humanité. Donc c'est quand même assez fort. Donc ça, c'est une plainte qui a été soumise en février donc 2017 par des juristes de la faculté de droit de Stanford et du Global Legal Action Network. Donc il faudra probablement attendre un an avant de savoir si le procureur décide d'ouvrir une enquête. Donc voilà, c'est des trucs qui sont un peu longuets. Et la plainte est très détaillée sur les abus physiques et sexuels commis à l'encontre des requérants enfermés dans ces centres depuis plusieurs années. Elle précise le caractère systématique et arbitraire des détentions et insiste sur la violation par l'Australie du principe et de non-refoulement des réfugiés. Donc avec cette plainte, la Cour pénale internationale lancerait un signal très fort vers les États européens qui utilisent de plus en plus la détention comme outil de contrôle de la migration. Donc l'Union européenne prend l'Union européenne prend des mesures pour gérer ce qu'ils appellent la crise migratoire. Donc, et ces mesures, du coup, elles ont de plus en plus un fort relent australien. Donc, par exemple, elle a donné plus de pouvoir à la fameuse agence Frontex. Donc, Frontex, qui est ce qu'on pourrait appeler le bras armé qui défend les frontières de l'Europe. Donc,
Encore des progressistes.
Voilà, donc c'est pour citer vite fait deux, trois trucs auxquels elle est associée. Donc, ça finance la recherche et développement de l'industrie sécuritaire. Coordonne des dispositifs sécuritaires européens anti-immigration, donc ça va loin, c'est des satellites, des sous-marins, des drones, des choses comme ça, ça fait vraiment peur, quoi. C'est aussi des expulsions groupées à l'échelle européenne. C'est de la mise en place de contingents qui regroupent des polices nationales, etc. C'est une coordination, en fait, des polices nationales des pays européens. Donc voilà, et financement de centres de rétention. Donc voilà, l'Europe a donné un peu plus de pouvoir à des gens comme ça. Elle a aussi encouragé la détention des requérants d'asile en Italie et en Grèce. Et elle a signé des accords, somme toute contestés, avec des pays non européens, tels que la Turquie et la Libye, pour contrer les arrivées des personnes migrantes. Donc ça, c'est typique de ce qu'a pu faire l'Australie. L'ouverture des centres hotspots sur les îles grecques et en Italie a d'ailleurs sans aucun doute lancé l'ère de la détention en Europe. Donc il y a aussi la Pologne qui pratique depuis novembre 2015 la détention des requérants d'asile sans papier.
France aussi qui conserve
des
mineurs de quelques mois.
Il y a la Hongrie aussi qui vient de décider la détention systématique dans des camps fermés à la frontière serbe. Il y a aussi le fait que l'Union européenne vient de promettre un soutien financier aux autorités libyennes pour la gestion des centres de détention et la formation de gardes-côtes libyens. Donc ça, c'est pareil, l'Australie finance les États limitrophes pour leur fil des thunes, pour qu'ils gardent les migrants et qu'ils les gèrent eux. Et voilà, et le problème est résolu. Donc pour parler des accords avec l'Union européenne et les autorités libyennes et tout ça, donc les gardes-côtes libyens, etc. Donc ces derniers sont d'ailleurs régulièrement accusés d'être associés avec les trafiquants et les mauvais traitements envers les personnes migrantes interceptées au large des côtes. Parce que le but de ces gardes-côtes, entre guillemets, c'est d'empêcher les gens de partir, et donc ils les interceptent, et dans intercepter, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Donc avec tout ça, porte à croire que l'Europe a été fortement inspirée par l'Australie, et sa stratégie s'apparente de plus en plus à ses procédés, et donc ça inquiète un peu les institutions de l'ONU, qui craignent des refoulements automatiques de migrants vers la Libye, et puis après vers les pays d'origine. Et la Cour européenne a quand même condamné, la Cour européenne des droits de l'homme a quand même condamné la détention prolongée des personnes migrantes, leur mauvais traitement et leur refoulement, etc. Mais bon, et la jurisprudence de la Cour, donc il y a une jurisprudence là-dessus, mais cette jurisprudence s'applique qu'aux États qui reconnaissent cette Cour, en fait. Enfin, ça veut dire ça, parce que ceux qui décideraient de dénoncer cette Convention européenne des droits de l'homme ne seraient plus soumis aux arrêts de la Cour. Donc du coup, c'est super simple de s'extraire de ce truc-là. Et c'est pour ça, en fait, que là, l'ouverture d'une enquête par la Cour pénale internationale, cette fois-ci, donc concernant cette enquête, ça concerne uniquement la détention par rapport à l'Australie. Ça serait vraiment un signal de mise en garde sur les pays européens qui rêvent de mettre en place ce truc-là, parce que là, dans ce cas-là, ils ne pourraient pas s'extirper aussi facilement que ça de ça, quoi. Donc voilà, c'était pour faire un point là-dessus, parce que c'est quand même assez grave, et l'Australie est en train de distiller doucement mais sûrement ces techniques malsaines. Donc voilà. Et bien, merci beaucoup pour ce point très complet sur l'Australie et les saloperies qu'ils font aux migrants et comment on s'en inspire brillamment. Et tout de suite, on passe au traditionnel agenda.
Je te rappelle qu'on va au théâtre ce soir, Chou.
Oh oui, putain. Oh, quel bordel.
Et alors, l'agenda, ça commence absolument tout de suite, c'est-à-dire qu'il y a l'apéro des ingouvernables qui a déjà commencé en pratique à partir de 18h. Alors cet apéro, c'est si tu veux t'organiser, si tu veux pique-niquer les présidentielles, si tu aimes jouer, si tu veux mettre fin au régime, si tu veux mettre fin au travail, alors rends-toi très très vite à l'esplanade de la Grande Côte. Donc c'est tout en haut de la montée de la Grande Côte.
Très 7 minutes.
À la Croix-Rousse.
Faut que ça prenne fin.
Et donc normalement ça se termine à 20h. On ne cache pas qu'on peut quand même émettre l'hypothèse qu'au moins dans la prochaine demi-heure, vous devriez pouvoir trouver des gens avec qui pique-niquer
les présidentielles. Voilà. Ensuite, donc il y a un truc qui se passe, alors pas à Lyon du tout, mais à Tarare, au centre social de Thomassin, putain j'inverse les lettres. Donc c'est le premier café des femmes, c'est-à-dire pour les personnes se reconnaissant dans l'identité femme. Vous pouvez y venir quand vous le souhaitez, le temps que vous souhaitez. Vous pouvez venir seul, entre amis, avec une voisine. Donc toutes les femmes y ont leur place, de 15 à 115 ans, actives, non actives, en réflexion, maman ou pas, retraitée, lycéenne, étudiante, pétillante, fatiguée, râleuse, effacée, énervée, heureuse. Voilà. Il y aura du monde pour vous accueillir. Donc il y aura bien sûr du très bon café, il y aura de la lecture, des jeux, de la musique, de quoi picorer et trinquer, s'amuser, se rencontrer, partager, s'informer. Donc ça, c'est la première. C'est le premier qui a lieu. Donc c'est de 19h à 23h. Par contre, il faut aller à Tarare, voilà. Donc il y a des covoiturages qui peuvent s'organiser. Donc là, on vous l'annonce peut-être. Enfin là, c'est peut-être un peu tard peut-être pour y aller tout de suite. Mais en tout cas, voilà. Il y en aura d'autres, a priori. Donc vous êtes avertis.
À Tarare, au centre social Thomassin. Et à Lyon, puisqu'on y revient, à la librairie La Griffe, qui est établie 5 rue Sébastien Griffe.
comme c'est amusant. Il y a une projection ce soir de la bande à Bono. Alors, on vous fait le pitch en deux secondes, peut-être que vous le connaissez déjà quand même. C'est le 21 décembre 1911, commence l'épopée de la bande à Bono, avec le premier braquage en auto. Ce jour-là, quelques illégalistes deviennent des bandits tragiques. Leurs photos s'étalent dans les journaux, leurs têtes sont mises à prix. Les forces de l'ordre organisent une chasse à l'homme dans les milieux anarchistes. Pour les illégalistes traqués, la lutte terrible engagée contre la société ne peut avoir qu'une issue fatale. Avec Jacques Brel et Bruno Kremer, c'est ce soir, maintenant, tout de suite, a priori, probablement, la projection devrait commencer sous peu, à la Griffe.
Voilà, et ce soir, on vous en a parlé tout à l'heure, c'est la soirée de réouverture de la Plume Noire. Donc je vous rappelle l'adresse, c'est 8 rue Diderot, donc vers la place Colbert dans le premier. C'est à partir de 19h30, il y a un concert et tout ça, et ça va être donc avec les Féminés. Et donc voilà, on vous invite à aller là-bas.
Et puis ce soir, si vous n'avez pas envie d'écouter de musique, si vous n'avez pas envie d'aller à un apéro, si vous n'avez pas envie de regarder un film, vous pouvez aller voir une exposition et en débattre. Ça se passe à Villefranche-sur-Saône, au 19 rue de Progny, à La Ruche. Et ce soirée débat et expo s'intitule « L'absence de débat démocratique dans la production de la commercialisation des armes ». Et il y aura à nouveau une soirée débat sur ce thème-là, le 7 avril. À 20h, quoique pas du tout, puisque le 7 avril à 20h, c'est maintenant en fait. Et la bouffe et la boisson sont à prix libre. Si vous pensez qu'il doit y avoir plus de démocratie dans la production et la commercialisation des armes, je ne comprends pas trop le sens du débat, je dois le dire, allez-y, c'est à Villefranche-sur-Saône, à La Ruche, tout de suite.
Voilà, et on change de jour, on passe au samedi 8 avril. C'est pas à Lyon, mais on aime bien parler aussi des trucs qui se passent pas à Lyon. Ça se passe à Cray. Figurez-vous qu'à Cray, il y a le carnaval populaire et c'est dans l'après-midi. Donc c'est, on va dire, à peu près entre 14h et jusqu'au soir, quoi. Voilà. On vous invite à aller là-bas.
Et puis si vous voulez vous rapprocher de Lyon, il paraît que Nuit Debout, c'est reparti au même endroit que l'année dernière, c'est-à-dire Place Guichard. Et demain, de 16h à 21h, il y a à nouveau Nuit Debout à Lyon. Alors de ce qu'on peut voir sur un site qu'on vous invite à aller consulter si vous voulez avoir des informations un petit peu plus précises que celles qu'on va vous donner, qui s'appelle rebellion.info, c'est qu'il y aura notamment des chants debout, de la musique debout et puis des débats debout.
Tout debout. Et demain toujours, à partir de 17h, donc ça va se passer au local jusqu'ici. Donc ça, c'est au 169 Grande Rue de la Guillotière dans le 7e. Donc à 17h, vous pourrez rencontrer Charles Rive et débattre et discuter avec lui du développement du capitalisme en Chine. Donc c'est retour critique sur la Chine maoïste et la révolution culturelle. Donc à 17h, au local jusqu'ici, 169 Grande Rue de la Guillotière, dans le 7e. Et donc voilà, on a terminé avec ce Canu Info. On est 2 minutes en avance, on a largement le temps d'annoncer que juste après nous, il y a le traditionnel Noise Pollution. Et d'ici là,
on se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là,
et qu'est-ce qui se passe d'ici là?
Attends, paniquez pas
et niquez tout.